Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Hélène Lefrançois et Rosalie Suc, mais aussi Margot Loridon et Bertille Bourdon, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Jacques Hézubert. Troisième volet de notre série consacrée à l'interventionnisme et à la double peine que constitue le retrait, le désengagement. Après avoir évoqué le cas de l'Afghanistan et de l'Irak, et avant de parler de la Libye, place ce matin à la Syrie.
Il y a un temps pour se battre et un temps pour ne plus se battre, pour être intelligent. Nous avons un énorme pouvoir économique et nous usons de ce pouvoir économique de manière bien plus efficace, dans un certain sens, qu'en utilisant des armes. Je pense que lorsque les hostilités ont débuté entre la Turquie et les Kurdes, il y a quelques jours, c'était vraiment mauvais. Et lorsque nous sommes allés voir la Turquie, lorsque nous sommes allés voir les Kurdes, ils se sont mis d'accord sur des choses qu'ils n'avaient jamais voulu faire jusqu'alors, jusqu'à ce que ces hostilités débutent. Et ces personnes ont essayé de se mettre d'accord. Regardons ce qu'il se passe. Ils se combattent depuis 300 ans, autant qu'on le sache. Donc, pourquoi devrions-nous mettre nos soldats au milieu de ces deux groupes de centaines de milliers de personnes qui se battent? Je ne pense pas que ce soit nécessaire.
Extrait de la conférence de presse donnée par Donald Trump avant-hier à la Maison-Blanche. Il aura suffi d'un communiqué laconique de la Maison-Blanche pour déstabiliser tout le nord-est de la Syrie. En effet, le 7 octobre dernier, l'administration de Donald Trump annonçait le retrait des troupes américaines présentes le long de la frontière turco-syrienne. Trois jours plus tard, le scénario redouté est devenu réalité. Erdogan a lancé une offensive militaire contre les milices kurdes des forces démocratiques syriennes qui avaient pourtant été les alliés des Occidentaux dans la lutte contre Daesh. Cette trahison a provoqué l'indignation générale de l'Europe aux États-Unis, où même les élus républicains du Congrès se sont mobilisés pour mettre la pression sur le locataire de la Maison Blanche qui a rapidement décidé de sanctions et mis en garde son homologue turc qu'il a appelé à ne pas faire l'idiot, je cite, dans une missive qu'on a peu l'habitude de voir dans les échanges feutrés des chancelleries. Résultat, alors que le vice-président Mike Pence avait été envoyé à Ankara pour tenter d'arracher un accord, une trêve de 5 jours a été signée, c'était jeudi soir. Et puis enfin, hier soir, un autre accord a été signé entre Ankara et son nouvel allié russe. Alors que vont changer ces récents accords? Qui sont les gagnants, les perdants de l'opération turque autorisée par le président américain? Quelles conséquences pour les acteurs du conflit? Les Kurdes, le régime de Bachar al-Assad, les djihadistes de l'État islamique? Nous avons tenté de comprendre les effets de ce désengagement américain pour l'avenir de la Syrie, bien sûr, mais aussi peut-être pour l'ensemble du Moyen-Orient. Pour évoquer ces questions, deux invités. Ala Khodmani, bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste franco-syrienne, grand reporter pour Libération. Vous aviez signé, c'était il y a 2 ans, seul dans Raqqa, et d'ailleurs Raqqa, il en sera question ce matin. Salam Kawakibi, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes politologue, directeur du Centre arabe de recherche et d'études politiques à Paris, puis vous êtes l'ancien directeur de l'Institut français du Proche-Orient à Alep. On va peut-être commencer avec cet accord d'hier soir. On a appris donc que Erdogan et Poutine s'étaient mis d'accord sur un certain nombre de choses. On s'est entendu sur un départ des combattants des unités de protection du peuple, les YPG, d'une zone de, cette zone de 30 km de profondeur le long de la frontière syro-turque, et puis un contrôle commun de cette bordure. Est-ce que réellement, à la Khomeini, cet accord d'hier change quelque chose, ou est-ce qu'il ne fait qu'entériner une situation qui était déjà acquise, à savoir, en gros, la réussite d'Erdogan à imposer ses vues sur cette zone frontalière, et puis la poursuite de l'extension de l'influence russe dans la région, aux dépens, bien sûr, des États-Unis et de leurs anciens alliés kurdes?
Oui, bien sûr, cet accord est une consécration un petit peu. Ça, l'image d'hier résume le résultat de tout, je dirais pas ces derniers, tout ce qu'on a vu se dérouler ces derniers jours, mais voire même ces dernières années sur le terrain syrien. Oui, Erdogan et Poutine, depuis le jour où ils ont commencé à s'entendre, à se parler et à trouver des solutions, parce qu'ils étaient les seuls. J'ajouterai l'Iran après, ils étaient les véritables acteurs. C'est-à-dire qu'ils étaient sur le terrain, qu'ils suivaient tout, ils ont des intérêts, ils ont une volonté, ils ont une stratégie, ils ont des objectifs clairs. Ce qui fait que, bon, forcément, c'est eux les gagnants.
Preuve que pour gagner un conflit, il faut être sur le terrain.
Pas seulement sur le terrain physique ou militaire, on peut être au moins sur le terrain actif, politique, diplomatique, tout est possible.
Salam Kawakibi, cet accord finalement ne change rien. Le grand vainqueur, c'est évidemment Erdogan. Poutine aussi, mais Erdogan.
Oui, Erdogan, le grand vainqueur, mais tout tombe dans l'intérêt global de Poutine. Il y a les perdants dans tout ce qui vient de se dérouler, c'est les Syriens dans leur globalité. Et moi, je préfère parler des Kurdes en tant que partie importante du peuple syrien. On désassocie souvent dans les médias la composante kurde de l'ensemble de la population syrienne. Les Syriens, ils ont perdu. Le pouvoir syrien gagne. La Turquie n'est pas du tout dérangée par le retour de l'armée de Bachar al-Assad à ses frontières, comme l'était aussi Netanyahu suite au retour de l'armée de Bachar al-Assad aux frontières avec la Palestine du Nord. Maintenant, le déplacement de la population se passe peut-être moyennement, mais c'est pas...
C'est-à-dire moyennement. Parce qu'il faut regarder une semaine après le déclenchement de l'opération, à peine, les conséquences humaines, humanitaires de tout cela.
C'est grave, c'est très grave, mais pas aussi grave de ce qui se déroule en Syrie depuis 2011. Tout le monde déplace la population qui ne le convient pas. Que ce soit les Iraniens ont déplacé une composante sunnite de plusieurs villes et villages, que ce soit les groupes terroristes de Daesh ou de Nusra qui ont déplacé la population kurde et autres dans leur domaine d'influence, ou que ce soit la Turquie qui, il faut le rappeler, il y a un an et demi, la Turquie elle a aussi opéré elle a fait une opération militaire et elle a envahi la ville de Afrin, une ville de majorité kurde dont la population est à moitié maintenant évacuée et remplacée par des Syriens réfugiés du sud de la Syrie, ce qui aussi crée une fissure énorme au sein de la cohésion de la population syrienne et ça renforce la haine entre les différentes composantes. Et la Turquie aussi réalise maintenant le ceinture de sécurité, ce qu'elle appelle la ceinture de sécurité. C'était dans l'idéologie du parti Baas de créer une ceinture de sécurité dans le nord de la Syrie et déplacer la population kurde vers l'intérieur de la Syrie et la remplacer par des tribus bédouines arabes. Et la Turquie est tout à fait sur la même longueur d'onde en ce moment.
À la Khonmani, sur les conséquences humanitaires de tout cela, sur les déplacements, il y avait hier un certain nombre d'informations sur la question de savoir si l'armée turque avait utilisé ou non des armes chimiques, l'utilisation de phosphore blanc. En tout cas, c'est ce que certains médecins signalent. Pour l'instant, on n'a pas encore de confirmation de tout ça. Sur les conséquences.
C'est toujours les conséquences à chaque fois humaines de chaque opération militaire depuis on est à notre 9e année du conflit syrien a été dramatique pour les populations.
Mais là, elles sont invisibles pour nous. Il y a pas grand monde pour rapporter tout cela sur le terrain.
C'est certain que il y a eu une grande partie des batailles syriennes qui ont été sans témoins. Oui, effectivement, il y a eu quelques reporters qui ont pu entrer dans la partie nord-est syrien les premiers jours, mais avec l'avancée de l'armée turque d'un côté et du régime syrien de l'autre, on sait que c'est pas vraiment des amis des journalistes et le risque aussi de que des djihadistes soient dans la nature, ça fait pas beaucoup.
Où vont les Kurdes aujourd'hui? Parce que l'accord, il prévoyait le retrait des forces kurdes. Où est-ce qu'on en est de ce retrait et où vont ces Kurdes?
Alors les populations kurdes, oui, comme disait Selam Kowakibi, c'est une des choses, des phénomènes de cette guerre syrienne, des déplacements de population en masse à cause des combats, à cause des différents. Pour l'instant, les Kurdes, les premiers jours, du moins de l'offensive, ils pouvaient aller un peu plus vers le sud, forcément, dans les villes à majorité kurde d'ailleurs, dans les zones qu'ils connaissaient, c'est-à-dire Hasake ou au Kamishli, etc. S'ils veulent sortir du pays, c'est ça. C'est là où le problème est plus difficile. C'est qu'ils doivent, ils ne peuvent que se diriger que vers l'Irak. Et forcément, ils n'iront pas en Turquie, pour des raisons évidentes. Et, ils vont aller vers l'Irak. L'Irak, il n'en veut pas tellement. Ils en accueillent un certain nombre, quelques milliers, mais c'est compliqué. Mais bon, c'est la seule. Je crois que ce sera essentiellement des déplacements internes pour la population, parce que là, on est à 200 000 personnes déplacées. Il n'y a pas, d'ailleurs pas que des Kurdes hein, dans ces zones-là. Il y a aussi des Arabes qui vont être déplacés forcément par les combats qui l'ont déjà été par d'autres combats. Enfin bon. Donc bon, c'est vrai que ces déplacements de population dramatiques, déracinements, etc., sont un des drames du Syrien depuis des années.
Vous parliez d'évacuation vers l'Irak. Il y en a d'autres qui partent aussi vers l'Irak. Ce sont les Américains. Écoutez justement les troupes américaines hier qui justement allaient vers l'Irak. Écoutez comment, évidemment, elles étaient accueillies. C'est pas le terme, mais en tout cas, voilà ce qui se passait au passage de ces véhicules américains. Écoutez.
Amérique ordure. Ordure. Vous êtes des menteurs. Nos enfants sont en train de mourir. Est-ce que quelqu'un parle, Erdogan? Qu'est-ce que vous faites?
Voilà comment ça se passait, les troupes américaines qui essayaient de rejoindre l'Irak, tandis que des Kurdes les insultaient, jetaient des pommes de terre sur le convoi. C'est une atmosphère qui a été recueillie par France 2 avant-hier. Salam Kawakibi, on parle depuis plusieurs jours d'un lâchage, d'une trahison des États-Unis envers les Kurdes. Jusqu'où est-ce qu'on peut parler de trahison? C'est-à-dire, jusqu'où est-ce qu'en réalité les États-Unis étaient réellement les alliés des Kurdes? Est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Est-ce qu'on n'a pas pensé qu'effectivement on en a fait des alliés de circonstance pour lutter contre Daesh, mais qu'en réalité l'administration américaine n'a jamais réellement soutenu la cause kurde?
Tout à fait. Et la faute principale, c'est la faute de cette composante de Kurdes qui a cru un jour que les États-Unis ou même la Russie allaient abandonner une force régionale comme la Turquie pour les droits du peuple kurde qui ont été trahis depuis les accords de Sèvres 1920. La Russie les a trahis en se retirant des alentours de Afrin il y a un an et demi. Les Américains les ont trahis après les avoir utilisés. Le problème de cette composante qui domine la politique du Kurde, et elle n'est pas représentative de la majorité des Kurdes. Il faut le rappeler que la majorité des Kurdes est représentée par 16 partis politiques qui n'ont pas les armes. Le seul parti politique qui a les armes contrôle cette zone. Alors aussi, il la prend en otage. Il impose ses règles, sa politique et ses ambitions. Et là, c'est la population civile qui paye le prix de ces politiques de domination, ainsi la trahison des faux alliés successifs. La faute, et ça a été souligné dans L'Orient le jour aujourd'hui, dans un article, la faute de cette composante militaire kurde, qu'elle n'a jamais compté sur l'intérieur de la Syrie, elle n'a jamais participé à la révolution, même au contraire, au début de la révolution, la première manifestation s'est déroulée dans la zone kurde, elle a été réprimée par le POIJ pour l'intérêt du régime de Bachar al-Assad. Maintenant, c'est la population civile kurde et autres et paye le prix cher de tous ces enjeux mal calculés.
Alaa Kolmani, est-ce que vous abondez dans ce sens? Effectivement, peut-être qu'il y a une autre trahison qu'on voit moins, c'est celle des responsables militaires kurdes qui, au fond, ont trahi les populations kurdes en faisant croire qu'en réalité, les Américains, les Russes soutenaient la cause kurde et soutenaient l'ambition d'une autonomie, voire d'une indépendance.
Je crois qu'il y a eu une sorte d'enivrement au niveau des milices kurdes ou des mouvements kurdes, parce que c'est vrai, compte tenu de tout du soutien qu'ils ont eu, dont au début c'était par le régime syrien qui, ne voulant pas que cette région s'enflamme avec les autres, leur a donné leur lâché les mains, octroyé des nationalités qu'ils n'avaient pas depuis des ans. Et surtout, bon, pour parler plus récemment, notamment du combat contre Daesh, de la coalition internationale qui a décidé d'appuyer essentiellement les Kurdes, à un moment donné, ces milices du PKK syrien, comme les appelle maintenant Trump, du PYD, ont vu le monde en grand. Ils étaient quand même les alliés principaux des plus grandes puissances du monde, que à partir d'une tablette dans un sous-sol de Raqqa, une combattante kurde pouvait commander l'aviation de la coalition. Et là, on devient forcément, on perd la tête, on perd le sens de la mesure. On ne peut pas imaginer que du jour au lendemain, si le combat se termine, on n'est plus rien.
Lâché, ouais.
Et donc, ils ont perdu le sens des réalités parce que ça a été grisant. Ça a été un moment de... ils étaient au sommet, ils se sont sentis au sommet du monde.
Et donc, erreur politique énorme, erreur politique de proclamer une autonomie dans cette zone du Rojava, erreur politique aussi peut-être du côté du Kurdistan irakien en décidant de ce référendum sur l'indépendance que l'administration américaine ne voulait pas voir. Il y a une véritable responsabilité pour le coup des politiques kurdes. Et si on se je vous en prie, à la Côte Manie, vous voulez réagir?
Je crois pas, je veux pas dire ça pour blâmer, on va pas quand même mettre tout le blâme sur les Kurdes. Ils ont été irréalistes, oui. Ils ont été mauvais calculateurs politiques, bien sûr, opportunistes, c'est normal. Non, ce qui est... Il faut quand même revenir à... Il fallait s'attendre. On ne peut pas être aujourd'hui comme on voit par tout le monde réagir en France ou ailleurs, en Europe, ou que ce soit parmi les intellectuels ou les politiques. Oh là là, mais c'est terrible, mais c'est horrible, mais c'est pas... C'est ça qui est pathétique, parce qu'on savait. Tout le monde savait, tous les responsables européens, même les chefs d'État, savaient que cette alliance avec les Kurdes sur le terrain pour le combat contre Daesh est une alliance de circonstances, qu'à un moment donné, ça allait tomber. Nous, on le savait. Pourquoi eux ne le savaient pas? C'est pas normal de devoir réagir maintenant de façon alarmée, pathétique, sentimentale, etc., alors qu'on n'a jamais... fait face à la réalité.
Salam Kawakibi, je vais vous laisser réagir. Et puis, pour poursuivre un petit peu, parce que le pragmatisme et le cynisme, c'est quelque chose que connaissent bien les chefs d'État, et peut-être en particulier Donald Trump. Est-ce que, finalement, derrière tout ça, le calcul de Donald Trump, ce n'est pas de s'appuyer sur le véritable allié, au fond, des États-Unis dans la région, c'est-à-dire la Turquie? Alors, je sais bien que, évidemment, ça fait des années que l'on remet un peu en question cette alliance, que la Turquie, membre de l'OTAN, n'est peut-être plus le partenaire qu'on espérait, que par ailleurs il y a ce rapprochement avec la Russie. Mais est-ce que le pari Donald Trump, c'est pas de s'appuyer sur la Turquie pour éventuellement lutter demain contre les combattants de l'État islamique s'ils venaient à revenir sur le devant de la scène? Est-ce que c'est pas ça le calcul politique de Donald Trump?
Je pense pas qu'il va aussi loin dans ses calculs, parce que il a vraiment l'intelligence très limitée dans la gestion de toutes les crises, notamment cette crise. Mais bien entendu, il y a les institutions américaines qui fonctionnent normalement, en parallèle de ce fonctionnement twitterien de Trump. Je crois pas qu'il calcule quoi que ce soit, sauf que le fait que la Turquie est un allié à ne pas abandonner, c'est ancré dans la politique occidentale en général. On veut bien entendre d'ici ou de là un président français ou une chancelière allemande critiquer Erdogan, mais en fin de compte, ils vont rien faire. Ils vont faire seulement dans les démonstrations, dans les discours, comme ils l'ont fait avec l'ensemble de la population syrienne depuis 2011. Ils ont développé un discours de solidarité, de déploration, de regret, de dénonciation, qui ne cesse d'enrichir la littérature politique universelle, sans prendre aucun geste, ne serait-ce que diplomatique. On parle pas de gestes militaires, mais de gestes diplomatiques. Maintenant, les forces de POID, ils ont le choix, ça a été discuté à Sochi hier, de rejoindre l'armée syrienne, voire les services de sécurité syrienne. Il faut aussi le rappeler qu'avant 1998, c'est-à-dire avant les accords d'Adana, où la Syrie a abandonné le PKK et qui s'entraînait dans les alentours de Damas et a livré Ocalan à la Turquie, les services de renseignement syriens préservent des relations très étroites avec les dirigeants du PKK qui sont à Kandil, dans les montagnes au nord du Kurdistan irakien, et qui mènent les combattants du POID à l'intérieur de la Syrie. Et dernièrement, le Kurdistan irakien, il est paradoxalement, les dirigeants politiques, ils sont alliés avec la Turquie. Quand il y a vraiment ce paradoxe dans la région qui se répète partout, pas seulement dans le Nord.
À la Khomeini, on va évoquer les conséquences pour le régime syrien. On va évoquer aussi du coup ce rapprochement un peu contre nature entre les Kurdes d'un côté et le régime syrien. Mais sur ce que je viens d'évoquer à la Khomeini, à savoir peut-être un nouveau pari de l'administration américaine qui serait, je mets au conditionnel, mais je voudrais avoir votre avis là-dessus, qui serait de s'appuyer non plus sur les Kurdes, mais sur la Turquie pour justement organiser la lutte contre le terrorisme dans la région. Première chose, et la question qui va derrière, c'est est-ce que Erdogan, lui, serait prêt à jouer le jeu? On sait que pendant des années, il a joué un double jeu. Il a été assez ambigu avec cette question-là, laissant passer les combattants sur son territoire, utilisant parfois justement comme supplétifs dans les combats menés par l'armée turque. Est-ce que Erdogan pourrait accepter ce pari si c'est bien le pari de l'administration américaine?
Voilà, c'est plutôt ça la question. Est-ce que c'est ça le pari de l'administration américaine? Comme expliquait Salam Kawak, on a toutes les raisons de douter de la clairvoyance et de la démarche stratégique de l'administration Trump. Maintenant, il est certain que la Turquie, c'est le poids le plus lourd dans la région. C'est 90 millions d'habitants. C'est un pays énorme. Les États-Unis ne pourront jamais, même s'ils l'ont beaucoup contourné. Hein, ils l'ont beaucoup. Il faut peut-être revenir. Je vais quand même rappeler quelque chose. Tout le problème entre la Turquie et les Occidentaux, en Syrie je parle évidemment, ça a été ce moment où les Occidentaux ont décidé d'ignorer la Turquie, de ne pas la consulter dans le combat contre l'État islamique et de s'appuyer sur les ennemis de la Turquie, justement. Ça, je crois que ça a été un tournant.
Erdogan s'est senti trahi.
Complètement. Trahi et dépossédé. Là, c'est sa grande revanche sur les Occidentaux. Mais je suis incontournable, enfin je suis la Turquie, c'est moi qui suis au milieu de tout ça, je suis en première ligne dans tous les sens du mot. Et donc là, on est en train de revenir à l'erreur, je pense à l'erreur
originelle
de 2014-2015, au moment où le choix pour combattre l'État islamique, on ignore. La Turquie a dit non, pas comme ci, comme ça, moi je veux bien, non. On discute pas.
Qu'est-ce qu'elle exigeait à l'époque?
Il n'y a pas eu de consultation. On a décidé que la Turquie, on pouvait pas faire confiance. Mais enfin, c'est eux qui sont là. C'est eux qui ont la plus grande armée. On peut pas.
Ils sont membres de l'OTAN.
On est dans cette réplique aujourd'hui.
Salim Kavokibi, ça c'est intéressant ce que rappelle Ala Khomeini, c'est qu'effectivement il y a un moment où les Occidentaux n'ont pas consulté leur allié turc, alors même que c'était à leur porte que ça se passait, que tout se jouait, et ils se sont appuyés sur leurs ennemis. Voilà une nouvelle trahison, une autre trahison.
C'est important pour comprendre le conflit. Une autre trahison qui s'ajoute aux différentes trahisons dans la région. Une fois j'ai posé la question à un secrétaire d'État adjoint américain sur le choix du POID pour combattre Daesh, à la place de ce qui s'appelait à l'époque l'armée syrienne libre, qui était aussi face à Daesh, qui a réussi, on le dit peu, à chasser Daesh de la ville d'Alep avant que Alep soit occupée par le régime suite au bombardement russe. Il m'a répondu vraiment d'une façon très caricaturale. Il m'a dit, parce que c'est un problème de communication, on n'a pas trouvé des gens qui parlaient l'anglais au sein de l'armée libre, alors on a préféré de parler avec le POID. C'est juste...
C'est sérieux?
Il m'a parlé de ça dans une réunion très sérieuse.
Et vous pensez que c'est la vraie raison?
Non, mais c'est une raison qui correspond à la façon dont les Américains
perçoivent les choses.
Il m'a dit, par exemple, comme vient le dire Ala Khomeini, que pour manipuler le iPad et communiquer avec le pilote de chasse, c'est beaucoup plus facile pour un milicien kurde de le faire en anglais qu'un milicien de l'armée syrienne libre. C'était un critère qui a été avancé dans une réunion officielle. Pour cela, je dis que, bien entendu, aussi les alliés, quand ils ont bombardé Raqqa et Mosul, ils ont causé la mort de centaines, voire des milliers de civils. Ça aussi, c'est c'était pour la bonne cause, pour évacuer Daesh. Et en fin de compte, la déclaration qu'on a vaincu Daesh, on va le constater très prochainement que c'était une fausse déclaration, parce que on l'a vaincu territorialement, mais Daesh, elle se propage dans la zone d'une manière très perverse.
On va revenir évidemment sur ce point-là, parce qu'effectivement, il semble que les conditions de la réémergence de Daesh, si tant est qu'elle soit aujourd'hui éradiquée, mais parce qu'évidemment, elles sont encore là, et on va l'évoquer. Mais à la Khonmani, il y a évidemment un acteur qui semble tirer bénéfice de tout ça, c'est aussi le régime syrien. Les Kurdes ont rappelé en renfort le régime de Bachar el-Assad pour venir les aider, pour occuper les villes de Manjib et Kobané, dans l'espoir de dissuader Ankara d'y lancer une offensive. On a vu d'ailleurs des soldats syriens brandir des drapeaux, des portraits de Bachar el-Assad dans des villes qui jusque-là échappaient totalement à son contrôle. Est-ce que cette offensive turque, dans quelle mesure est-ce que cette offensive turque va profiter précisément au régime de Bachar el-Assad? Et on parlait d'alliance. Cette alliance-là, qui n'est pas totalement nouvelle, mais entre les Kurdes et le régime syrien, jusqu'où est-ce qu'elle peut aller? Est-ce qu'elle pourrait devenir vraiment une alliance stratégique? Et comment ça pourrait se traduire politiquement?
Très loin. Oui, c'est encore le scénario, le cauchemardesque qu'on attendait, hein, qu'il y aurait une attaque turque, que les Kurdes allaient faire appel au régime syrien. Bon, si le régime syrien va en sortir gagnant, je le dirais. C'est certain. C'est certain que là, une fois de plus, l'élément étatique joue. Même les Turcs, quelque part, dès le départ, préfèrent avoir le régime syrien qui contrôle la frontière turco-syrienne que les milices kurdes. Et ça, je crois que c'était déjà conclu avec les Russes avant que l'offensive ne commence. Maintenant, est-ce qu'ils ont gagné? Le partenariat, il est là. Vous savez, dans plusieurs arrangements, le régime syrien n'a plus du tout les moyens humains, matériels, militaires, notamment en hommes, pour aujourd'hui contrôler son territoire. Et il s'appuie sur les ennemis d'hier, y compris les ennemis d'hier, dans le sud de la Syrie, dans la région de Daraa. Ce sont des anciens combattants de l'armée syrienne libre qui assurent le maintien de l'ordre, mais la région est reconquise administrativement par le régime syrien. Je pense que là, dans toutes les zones à majorité kurde, ça va être la même chose. Les Kurdes vont être sous les ordres, mais ça sera un partenariat. Mais l'affichage, effectivement, ce sera le drapeau du régime syrien qui sera partout.
Mais donc ça veut dire quoi, la Khomeini? Parce que pendant tout ce temps, le régime syrien précisément n'était pas là, et je vous fais réagir ensuite, hein, Salam Kawakibi, n'était pas là dans ces zones du Nord en particulier. On avait des forces démocratiques syriennes qui ont bâti des institutions qui se sont substituées peu ou prou à celles du régime, avec un appareil sécuritaire, avec des instances plus ou moins de contrôle, de régulation. Tout ça, c'est fini. Le régime syrien va revenir en place, va pouvoir redéployer son système sécuritaire en toute liberté, réinstaurer son propre régime de terreur comme avant?
Probablement.
Salam Kawakibi.
Je crois que ça va se faire sous le contrôle de la Russie. Alors peut-être il y aura un peu de bémol à mettre sur le retour global du système avec tous ces appareils. Les soldats qui sont revenus, c'est vraiment symbolique. Ils sont pas là pour combattre la Turquie. Ils n'oseront même pas tirer sur la Turquie. Et la Turquie ne cherchera pas à entrer en conflit avec eux. Ils sont revenus sous l'égide et sous le contrôle de la police militaire russe. Maintenant, dans les accords de Sochi, il va y avoir des forces communes russo-turques qui, en présence de l'armée syrienne, et notamment qui fait partie de ce qu'on appelle la 5e brigade, qui vient d'être formée par la Russie au sein de l'armée, parce que la Russie s'est rendue compte, en arrivant en Syrie, que l'armée classique syrienne est complètement délabrée. Elle a créé le 5e brigade qui est payé, même les salaires sont payés par la Russie, avec des soldats choisis par la Russie et des officiers aussi, qui ont même des uniformes différentes de l'armée syrienne de Bachar al-Assad. Et c'est eux qui vont être dans cette zone pour être au merci total de l'armée russe. Maintenant, le PYD, il négocie avec Damas bien avant l'opération turque.
Pardon, qu'est-ce que ça change le fait que ces officiers syriens soient sous contrôle de la Russie? Concrètement, dans la manière d'administrer ces territoires, qu'est-ce que ça change?
Ça change, c'est-à-dire si la Russie décide que les services d'enseignement syriens ne doivent pas avoir le même pouvoir qu'ils l'ont, par exemple, à Alep ou ailleurs dans la Syrie contrôlée par Assad, dans cette zone spécifique, Ils obéiront à la volonté de la Russie.
C'est ce qui va se passer?
Ça dépendra de l'accord entre la Russie et la Turquie. Et moi, je soupçonne.
Il y en a eu un accord hier.
Des détails de cet accord. Ouais. Parce que vous savez, on parle de l'accord d'Adana 1998 qui stipule que l'armée turque a le droit de pénétrer jusqu'aux 5 kilomètres dans le territoire syrien que Hafez Assad avait signé. Et on parle des articles secrets de cet accord qui élargit la zone de pénétration de l'armée turque à 34 kilomètres. Et là, on voit qu'il parle de 34 kilomètres. Alors les Turcs, d'un point de vue du droit international, si ils publient les accords d'Adana 1998, ils sont pas envahisseurs. Ils appliquent les articles qui ont été dans cet accord. Ce qui m'amène à dire que les accords d'hier, ils peuvent avoir des articles aussi secrets concernant le déploiement de toutes sortes de pouvoirs sécuritaires ou militaires syriens.
Alors, je vais vous faire réagir là-dessus. À la Kodmani, moi, j'ignorais complètement les détails plus secrets de cet accord-là. Je voudrais vous entendre là-dessus, parce que ce qu'on a, nous, sur le devant de la scène, là, c'est officiellement un régime syrien qui s'oppose à cette offensive turque. Hier, on avait les médias syriens qui rapportaient les propos d'un Bachar al-Assad qui traitait Erdogan de voleur. Il disait, maintenant, il nous vole nos terres.
La rhétorique est
c'est de la communication,
très, très agressive.
C'est de la communication.
La rhétorique est terriblement agressive depuis le premier jour de l'attaque. C'était tous les médias du régime syrien étaient attention, la violation et l'attaque et les agresseurs.
Mais tout ça, c'est de la com.
Bien sûr.
Donc l'hypothèse d'une confrontation entre le régime syrien et l'armée turque.
Mais il y a ça même pas. On n'y a même pas pensé. Je crois que chaque fois. Bon, il faut dire que cette guerre a été quand même une guerre éclair. L'offensive turque. Elle a tourné très très vite, justement, parce qu'il n'y avait personne pour la confronter. Parce que c'était les Kurdes se sont battus pour certaines villes, puis il y a eu des accords très vite. Mais alors, il n'y a pas eu un échange de tirs entre l'armée de Bachar al-Assad appelée à la rescousse et appelée à tenir quand même les frontières. Et non, c'est purement de la com. Et c'est juste parce que ça fait des années qu'on développe un discours anti-turc. Maintenant, bon, si c'est les Russes qui sont qui dictent leurs lois, Bachar al-Assad n'a qu'à se taire.
Vous parlez de communication, justement, on va y venir. On va parler de Daesh. Daesh est éradiqué puisque c'est Donald Trump qui l'a dit.
Nous nous battons depuis longtemps en Syrie. Je suis président depuis presque 2 ans et nous sommes vraiment passés à la vitesse supérieure. Nous avons gagné contre le groupe État islamique. Nous les avons battus et nous les avons bien battus. Nous les avons vaincus sur leur territoire. Et maintenant, il est temps que nos troupes rentrent à la maison. Nous avons gagné, il est temps de rentrer, ils se préparent, vous allez bientôt les voir. Ce sont les héros de l'Amérique. Nos garçons, nos jeunes femmes, nos hommes, ils rentrent tous, et ils rentrent tous maintenant.
Voilà, c'est ce que disait Donald Trump le 19 décembre dernier. Salam Kawakibi, les États-Unis ont gagné, Daesh est éradiqué, c'est fini.
Je crois que ça fait partie aussi de l'esprit Trump dans la gestion de la crise. De toute crise, l'État islamique a été vaincu d'un point de vue, comme je viens de le souligner, territorial, mais au contraire, et s'est déployé d'une manière beaucoup plus efficace d'un point de vue de la guerre des guérillas. Bien entendu, toute formation non étatique, militaire, qui se localise dans une zone bien précise, elle est condamnée à la disparition, parce que c'est très facile d'encercler, de bombarder, de se faire comme ils ont fait des alliés à Mossoul ou à Raqqa, tuer des centaines de civils, voire des milliers, pour déloger les combattants de cet État islamique. Maintenant, l'État islamique qui a réussi, et là aussi il faut se poser des questions, à évacuer tous ses dirigeants de la zone après la défaite contre des sommes faramineuses vers le désert de Al-Anbar, voire même le Badier en Syrie, c'est le semi-désert, la zone semi-désertique en Syrie de l'Est. Ils sont là-bas.
Mais dans qui a laissé faire avec le concours de qui?
Avec le concours de ceux qui les ont combattus, et notamment sur le terrain.
Donc les Kurdes syriens?
On parle beaucoup de manigances, de contrats qui ont été signés pour faire passer des dirigeants de Daesh. Mais c'était pas la trahison, c'était une affaire qui se déroule dans toutes les guerres. Vous achetez la route pour quelques heures, et on vous bombarde pas pendant ces heures-là. Mais maintenant, ils sont dispersés, quelques milliers de combattants de terroristes de Daesh, ils sont dispersés dans le Badia syrien, comme le désert de Al-Anbar irakien. Mmh. Et tous les jours, ça, on le dit très peu, tous les jours, il y a des opérations terroristes, des attentats terroristes contre les forces américaines, voire kurdes et autres dans la région de Deir ez-Zor et qui causent la mort de dizaines de personnes, et c'est Daesh qui le fait.
Alaa Khan Mahni, sur ce risque de résurgence de l'État islamique, on est évidemment dans une situation où on a potentiellement des combattants djihadistes qui pourraient se retrouver libérés intentionnellement ou non. On a un Erdogan d'ailleurs qui a dit que les YPG avaient intentionnellement relâché un certain nombre de combattants.
Mais je crois que, il y a évidemment les mesures, on essaye d'enfermer, de contrôler, de combattre, etc. Je crois qu'il faut aussi regarder les conditions politiques, sociales, économiques qui font que le désespoir des gens va faire que les rangs d'un État islamique ou d'un tout autre mouvement de désespéré nihiliste, comme c'est le cas pour Daesh ou pour tout autre,
Les conditions sont toujours là aujourd'hui.
C'est ça. Ouais. Les conditions politiques, sociales, qui font que quand tout le monde a déçu, quand les populations sont désespérées, quand les jeunes qui peuvent pas en Syrie maintenant, il y a plus de jeunes entre 18, les hommes jeunes entre 18 et 40, 50 ans dans la Syrie du régime de Bachar el-Assad, ils sont en disparition parce qu'ils veulent pas être entraînés vers l'armée, ils veulent pas. Et dans le désespoir, ils iront vers des mouvements comme ça.
Donc les Arabes sunnites qui avaient permis justement l'installation de Daesh sur ce territoire à cheval sur l'Irak et la Syrie, ils sont toujours prêts aujourd'hui à les laisser revenir, à reprendre les territoires.
Je ne dirais pas ça, mais je dis que si les pouvoirs en place, ceux qui contrôlent le terrain, le gouvernement, les défaillances du gouvernement irakien d'une part, on voit les manifestations avec le mécontentement en Irak. Le territoire syrien qui est lâché, que tout le monde lâche, au lieu de se mettre sous le régime de Bachar el-Assad, je dis que le risque est là, que les ingrédients d'une résurgence sont présents.
Salam Kawakibi.
Moi, je peux aller encore plus loin pour dire que peut-être des jeunes Kurdes désespérés par ce qui vient de se passer, ils iront dans les rangs de l'État islamique.
On a jeté les Kurdes dans les bras de l'État islamique.
On a jeté tout le monde dans le bras de l'État islamique. On a fait tout pour permettre à l'État islamique de se développer, et on continue à le faire ailleurs qu'en Syrie. Ce qu'on fait en Égypte en soutenant un dictateur militaire comme le général Sisi, et ça renforce les rangs des terroristes, soi-disant, au Sinaï, et beaucoup de jeunes égyptiens désespérés, dépourvus de tout moyen de vivre et de survivre, ils vont rejoindre ces groupes sous n'importe quel prétexte. Mais on est aveugle ici en Occident. On voit pas le développement de la situation dans la région, et on continue à renforcer nos alliés dictateurs, nos alliés, ou en parler de réalistes politiques pour reprendre contact avec les tyrans comme Bachar al-Assad, tout en laissant la population à son sort, sans aucune perspective. Et voilà, on a payé les prix et on paiera peut-être un prix encore plus important dans les futurs proches.
On était avec vous, Salam Kawakibi, et vous, à la Côte-Manie, pour parler de cette situation syrienne dans cette série consacrée à l'interventionnisme, de l'intervention au désengagement, la double peine. C'était le titre de notre série qu'on a entamée lundi. On va s'interroger tout de suite sur l'avenir des réfugiés syriens qui sont aujourd'hui en Turquie.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Nous sommes fidèles à notre pays, la Syrie, mais nous considérons la Turquie comme une seconde patrie. C'est le seul pays à nous avoir accueillis, à nous apporter protection, aide, tout ce dont nous avons besoin. En tant que réfugiés, nous n'aurions pas pu trouver dans le monde un meilleur accueil qu'en Turquie.
Le gouvernement turc nous aide à vivre dans de bonnes conditions. Ils sont intéressés par la qualité de ses diplômes et aujourd'hui, ils lui proposent de prendre la nationalité turque.
Voilà, extrait d'un témoignage recueilli par France Info. On était en 2016. À l'époque, il y avait une grande solidarité des Turcs envers les réfugiés syriens. On va voir ce qu'il en est aujourd'hui. Et surtout, on va regarder ce que pourraient être les conséquences de cette offensive turque en Syrie pour ces populations réfugiées. On va retrouver depuis Istanbul Jean-François Pérouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci infiniment d'être avec nous ce matin. Vous êtes enseignant-chercheur à l'université Toulouse, mais vous êtes aussi enseignant à Galatasaray, l'université de Galatasaray, et puis vous êtes associé également à l'Institut français d'études anatoliennes où vous avez été un temps directeur. Jean-François Pérouse, on craignait depuis plusieurs mois cette offensive turque. Elle a fini par avoir lieu. L'objectif affiché de Erdogan, on en a parlé déjà ce matin, c'est de créer cette zone de sécurité de 30 km dans laquelle il pourra réinstaller les réfugiés syriens qui sont aujourd'hui en Turquie. Comment est-ce qu'on perçoit les choses aujourd'hui en Turquie? Ces réfugiés syriens aujourd'hui, comment est-ce qu'ils voient cette ambition du pouvoir turc de les réinstaller de force dans ce nord syrien?
Alors, de force, c'est peut-être... l'expression est peut-être exagérée, mais on a déjà 350 000 retours qui ont été assurés. Hein, et donc, on peut déjà voir la... dans quelle mesure ces retours ont été des succès, et le bilan est mitigé. Hein.
Juste un instant, Jean-François Pérouse, vous dites que de force, c'est un peu exagéré. Les départs donc, que vous évoquez, là, les 337 729 départs volontaires, c'est l'expression qui est utilisée par Ankara, ce sont de vrais départs volontaires, on n'a forcé personne?
Alors bon, il y a eu des cas qui relèvent effectivement du retour forcé, mais en majorité quand même les retours ont été concertés, hein, et se sont faits avec l'accord des personnes concernées. Mais d'après les premiers témoignages, les personnes qui ont été rapatriées, hein, pourrait-on dire, ne sont pas très très satisfaites. Hein, et il y a déjà eu là des reportages qui ont été faits, hein, qui vont dans ce sens. Donc, évidemment, les conditions ne sont pas réunies, hein, pour permettre ce retour, un retour qui ne se fait pas dans le lieu d'origine, hein, et qui se fait dans un contexte sécuritaire catastrophique, dans un contexte économique non moins catastrophique, et dans ce qui reste un chaos à l'heure actuelle.
Mais est-ce qu'il a véritablement l'intention, Jean-François Pérouse, Erdogan, de réinstaller 3,6 millions de réfugiés syriens dans cette partie? Ça paraît difficilement possible.
Alors dans la zone qui a été pour l'instant, disons, sanctuarisée, pourrait-on dire, hein, entre Tel Abyad et Ras Al Ayn, c'est absolument impossible. Hein. Donc ça va dépendre d'autres théâtres d'opérations, hein, sur lesquels la Turquie n'a pas une prise, hein, totale. Hein. Donc ça reste extrêmement hypothétique, hein, la faisabilité d'un retour d'une telle population, sachant que c'est une population qui est déjà pour partie intégrée, qu'on a 60 000 Syriens qui ont acquis la nationalité turque, qu'il y a cette population des centaines de milliers d'enfants qui sont nés en Turquie, donc qui pourraient faire valoir un droit du sol. Hein. Donc c'est extrêmement compliqué, hein, et ça ne se fera pas massivement, hein. C'est absolument impossible, ni les conditions sont réunies en Syrie, ni la population syrienne, qui est très diverse, hein, de Turquie, n'est prête à massivement retourner.
Mais si ça se fait pas, Jean-François Pérouse, il n'empêche qu'il faut afficher l'intention d'eux. Pour Erdogan, c'est absolument décisif. Il faut qu'on comprenne aussi, nous ici, en Europe, en Occident, combien aujourd'hui l'opinion turque a glissé cette solidarité qu'il y avait à l'époque, en 2015-2016, de l'État turc vis-à-vis des réfugiés syriens. C'est terminé. Quand on regarde les études d'opinion, ça a très clairement glissé énormément. Ça, c'est quelque chose que vous ressentez sur place, Jean-François Pérouse?
C'est quelque chose que l'on ressent sur certains segments du marché du travail, hein, qui est plutôt tendu, hein, où une fraction de la population syrienne est exploitée, hein, dans des conditions assez infâmes, hein, avec des rémunérations qui sont très inférieures aux rémunérations moyennes des citoyens turcs, hein, et avec aussi un taux d'accident au travail, hein, qui est considérable. Donc effectivement, là, on a sur ce segment des tensions, mais qui ne sont pas aussi importantes qu'on pourrait le croire, et que certains partis, hein, et que certaines personnalités politiques tendraient à faire croire, hein, dans une cédant à la tentation, hein, d'une instrumentalisation politicienne de cette grave question humaine et humanitaire.
Jean-François Pérouse, justement, cette question du travail, de l'économie, parce que si la Turquie a accueilli des Syriens, c'est évidemment au nom d'une solidarité qui était probablement réelle et parfaitement sincère à l'époque, mais c'est aussi peut-être parce qu'elle y trouvait un intérêt du point de vue économique, et d'une certaine manière un peu comme d'ailleurs l'Allemagne, c'était un peu la même situation, parce que ces réfugiés offraient une main-d'œuvre bien utile pour porter la dynamique économique du pays. Or, aujourd'hui, on est, Jean-François Pérouse, dans une situation où l'économie a beaucoup plus de mal, elle est beaucoup moins bonne. Dans quelle mesure est-ce que la dégradation de l'économie turque explique aussi, peut-être en partie, ce projet visant à renvoyer les Syriens chez eux?
Oui, absolument. Le taux de chômage n'a jamais été aussi élevé, hein, qu'actuellement en Turquie. Et donc là, il y a un sérieux problème, hein, qui se pose. Et effectivement, la conjoncture économique assez critique conduit à reconsidérer, hein, la question de la présence syrienne. Mais il faut bien voir qu'il y a aussi une classe moyenne, hein, il y a aussi des Syriens fort bien éduqués, hein, nantis de diplômes, hein, qui ont trouvé leur place, hein, et qui eux, ne souffrent pas, là, de problèmes. Disons d'intégration économique, hein. Et d'ailleurs ce sont eux, hein, qui sont à qui l'on propose, hein, en priorité la nationalité turque, hein, ainsi qu'aux 17 000, hein, puisque ce sont les chiffres, 17 000 entrepreneurs, hein, qui sont syriens, donc qui ont créé une entreprise, hein, en Turquie. Donc ceux-là sont très soutenus, hein, par l'État turc, et leur avenir est en Turquie, manifestement.
Oui, c'est une manière de rappeler qu'effectivement, on a parfois une vision un peu misérabiliste de la chose. On voit toujours les réfugiés comme des gens qui vivent dans des conditions extrêmement précaires dans les camps, ce qui est évidemment vrai en partie, mais seulement en partie. Il y a aussi une partie de ces réfugiés.
C'est moins de 10% de la population syrienne.
Oui, il y a presque plus de réfugiés syriens dans les camps.
Quasiment plus, effectivement.
Vous restez avec nous. Je voudrais peut-être faire réagir nos deux invités en plateau, Alaa Konmani et Salam Kawakibi. Alaa Konmani, sur cette présence syrienne en Turquie.
Oui, non, mais je crois que quand on dit pourquoi les Turcs les ont accueillis, la question ne s'est pas posée. Quand il y a eu tellement de combats, qu'il y a eu de pression, ils sont passés, la frontière a été ouverte carrément par les Turcs. Et là, on peut pas absolument pas accuser qui que ce soit de mauvaises intentions ou d'arrière-pensée. Non. Le geste spontané d'accueillir naturellement tous ces populations qui fuyaient les bombardements, ça a été et c'est vrai que très vite, disons, la Turquie a offert des conditions assez je dirais respectables, de respect pour les Syriens, que ce soit couverture santé, que ce soit logement, que ce soit éducation, etc.
Mais c'est vrai qu'il faut saluer cet effort colossal, hein,
ce moment de ras-le-bol ne pouvait qu'arriver,
comme il est arrivé en Allemagne d'ailleurs.
comme il est arrivé en Allemagne et comme il arrivera n'importe où quand un problème persiste, quand les chiffres augmentent. Et là, le risque, c'est que si jamais il y a une bataille Idlib, si le régime reprend Idlib, c'est ça le grand problème, c'est qu'il y a encore un nouvel afflux de réfugiés.
Salam Kawakibi. En guise de conclusion, on arrive presque au terme de l'émission.
Oui, les réfugiés syriens qui ont été accueillis par la Turquie, ils ont trouvé des conditions d'intégration assez favorables. Il y en a beaucoup de gens, comme ça vient d'être dit, des entrepreneurs qui participent à l'économie. Maintenant, Erdogan, il veut pas reconnaître qu'il a une façon autoritaire dans la gestion de la politique dans son pays. Et il attribue toute la perte dans les dernières élections à la question de l'accueil généreux des réfugiés. Et en même temps, les partis de l'opposition n'ont aucun projet d'alternative. Ils ne cessent de se focaliser sur les réfugiés. Alors, en fin de compte, les réfugiés payent le prix de ce conflit interpolitique entre les différents partis turcs qui essayent chacun de jeter la cause sur les autres.
Jean-François Perrouze, vous vouliez ajouter une toute dernière chose. Allez, 30 secondes, 40 secondes, je vous en prie.
Si je peux me permettre, voilà, juste de rajouter, il y a aussi toute cette politique de gestion des réfugiés, hein, j'aime pas cette expression, mais enfin, on peut l'employer, elle est aussi, elle a été construite dans la perspective, hein, de la chute du régime de Assad. Et donc, il y a eu aussi une formation en Turquie de Syriens, hein, qui se battent actuellement, hein, dans la nouvelle armée nationale syrienne, hein, et constitution aussi d'un gouvernement, hein, parallèle. Hein, donc, il y a aussi cette dimension-là. On les accueille, mais on les forme, hein, pour un retour en Syrie en tant que combattant, hein, ou en tant que cadre politique d'une nouvelle Syrie qui serait conforme, hein, au projet du président Erdogan. Hein. Et donc, l'échec. Vu ce qui s'est passé hier à Sochi, hein, de ce projet, risque aussi, hein, d'avoir des conséquences, hein, sur la faisabilité, hein, d'un retour de ces Syriens de Turquie.
Merci beaucoup à Jean-François Perrouze qui était avec nous à l'instant par téléphone. Je rappellerai que vous êtes co-auteur notamment de Erdogan, nouveau père de la Turquie. Un grand merci à nos deux invités qui étaient avec nous ce matin ici en plateau. Alaa Konmani, je rappellerai vous concernant Seul dans Raqqa, c'était aux éditions Équateur. Salam Kawakibi, un grand merci également. De votre côté, c'était du despotisme et autres textes chez Actes Sud, notamment. Enfin, il y a beaucoup de choses. On mettra évidemment les références de vos ouvrages sur le site de France Culture, sur la page de Culture Monde. Merci infiniment. On poursuivra demain, où il sera question de la Libye. Place à notre Brice Couturier et le tour du monde des idées.
Le tour du monde des idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
Faut-il oublier John Rawls? Voilà votre question.
Sa théorie de la justice est-elle en déphasage avec les problèmes qui se posent à nous aujourd'hui? Son égalitarisme libéral nous empêche-t-il de penser les mutations contemporaines du travail et du capital? Eh bien, c'est la question que pose une jeune universitaire enseignant la philosophie politique à Harvard, Katrina Forrester. L'ouvrage majeur de John Rawls, sa théorie de la justice, nous est arrivé en traduction grâce à Catherine Audard avec 16 ans de retard en 1987. L'ouvrage en effet avait été publié en anglais en 1971 et il avait eu le temps de renouveler de fond en comble la philosophie politique dans le monde anglo-saxon et au-delà. Dans les 10 ans qui ont suivi sa publication en anglais, pas moins de 2512 essais et articles savants avaient été publiés pour le commenter ou lui répondre. C'est l'ouvrage de cette nature le plus commenté de la deuxième moitié du XXe siècle. Mais la France fut longtemps réticente envers une pensée qui légitimait à la fois le libéralisme et la social-démocratie. La philosophie de Rawls apparaissait trop procédurale et trop modérée à un public intellectuel français habitué à cette époque à des pensées plus radicales. Rappelons pour mémoire les deux principes fondamentaux du système de John Rawls. Primo, chaque citoyen possède un droit égal au système de liberté le plus étendu possible. Deuxio, les seules inégalités acceptables sont celles qui respectent l'égalité des chances en amont et qui bénéficient au final aux membres les plus désavantagés de la société. Le modèle proposé par Rawls fut jugé idéal parce qu'il était parvenu à combiner les vertus du libéralisme, un principe de liberté, avec l'aspiration à l'égalité démocratique. C'est pourquoi il fut interprété comme une défense de l'État-providence à la sauce social-démocrate. Il s'agit en effet d'un égalitarisme libéral. C'est une théorie de la justice appréhendée sous le signe de l'équité. Mais la société pour laquelle Rawls écrivit sa théorie de la justice était très différente de la nôtre aujourd'hui. La croissance y était vigoureuse, les inégalités économiques relativement faibles, les syndicats puissants. Et les inégalités de genre et de race y étaient beaucoup plus nettes qu'aujourd'hui. Je cite encore Katrina Forrester. À l'époque où il publia ses idées, en 1971, elle reflétait déjà l'optimisme d'une époque plus ancienne et révolue. Mais son succès fut tel qu'elles suffirent pour disqualifier toutes les questions qui échappaient à ce cadre qui est à la fois souple et contraignant.
Et de fait, hein, Brice, cela fait presque un demi-siècle que ces formulations dominent la théorie politique dans les universités anglo-saxonnes.
Oui, parce que les deux principales écoles qui passent pour s'être opposées à celle de Rawls, à savoir le communautarisme d'une part et ce qu'on appelle le Locke égalitarianisme de l'autre, occupées à critiquer certains aspects précis de sa doctrine, sont restées en réalité enfermées dans le même paradigme. Et 17 ans après sa mort, John Rawls, aujourd'hui, demeure la ligne d'horizon de tout ce qui s'enseigne et se publie dans le domaine de la philosophie politique du monde anglo-saxon. C'est parce que cette pensée fait preuve d'une extrême souplesse qu'elle constitue, je cite encore, un cadre général à l'intérieur duquel d'innombrables questions particulières peuvent trouver des réponses. Mais cette omniprésence n'est-elle pas abusive. Car l'ironie de la chose, poursuit Katrina Forrester, c'est qu'au moment où Rawls publiait cette défense de l'État-providence d'inspiration social-démocrate, donc en 1971, le système de protection sociale qui avait dominé l'après-guerre commençait à être attaqué par une pensée néolibérale qui allait bientôt conquérir le pouvoir dans les années 80 avec Margaret Thatcher et Ronald Reagan. Ses dirigeants allaient pulvériser les syndicats, mettre en pièces les États-providence, privatiser les services publics. Le succès philosophique de Rawls, écrit donc Katrina, Forrester, le succès de Rawls apparaît donc en même temps comme une histoire de fantôme, elle écrit, Katrina Forrester. Et pourtant, paradoxalement, le système de Rawls allait connaître un regain de faveur dans les années 1990, c'est qu'il apparaissait alors en adéquation avec le social-libéralisme version Bill Clinton, Tony Blair, Gerhard Schröder, en cette période d'optimisme libéral, son aspect technocratique, sa prétention à désidéologiser les problèmes sociaux permirent aux idées de Rawls de trouver de nouveaux adeptes. Après la mise en pièces des États-providence par les néoconservateurs, Rawls devint soudain le porte-étendard d'un libéralisme de gauche alors triomphant. Mais qu'en est-il aujourd'hui? Les angles morts du système de Rawls montrent que sa philosophie est devenue périmée. Ainsi, les exigences de réparation pour les préjudices du passé, telles que celles formulées par les Afro-Américains dont les ancêtres furent victimes de l'esclavage, n'y trouvent pas de place. Le paysage politique a changé. Populisme, nouvelle radicalité, rôle des réseaux sociaux, réchauffement climatique. Il est temps de se demander à quoi devrait ressembler une philosophie politique adapté à notre époque.
Et John Rawls peut nous aider justement à éclairer tout ça. Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture.